Lundi, nous étions tous encore sous l'effet de l'annonce dimanche par le pape François des futurs nouveaux cardinaux. L'attention du pape s'est portée sur les pays du Sud, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Ainsi, parmi les nouveaux cardinaux, Mgr Chibli Langlois, évêque des Cayes. Le pape donne ainsi à Haïti son premier cardinal. La nouvelle a particulièrement touché les Haïtiens, car à la même date, il y a tout juste 4 ans, un séisme dévastait l'île.
Désormais, 12 janvier ne sera plus uniquement souvenir de la tristesse que nous avons connue, mais ce sera également souvenir de cette grande joie d'avoir le premier cardinal haïtien. Donc plein de symbolisme, et je crois que ça entre dans le message même de notre Saint-Père qui nous invite à développer la joie de l'Évangile, une joie qui est une lumière, qui est la confiance que nous avons et l'assurance même que nous avons que Dieu nous aime.
Faire taire les armes en Syrie, un cessez-le-feu, la fin de toute violence et sans condition politique préalable, le Vatican qui suit de très près la situation syrienne accueille en début de semaine une journée de réflexion. Syrie, pouvons-nous demeurer indifférents? C'était le thème de cette rencontre à huis clos, présidée par le cardinal Jean-Louis Torrent. Le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux nous expliquait le sens de cette rencontre voulue par le pape en personne.
Il s'agissait d'abord d'une rencontre qui avait pour but de porter au Saint-Père le point de vue des experts, de diplomates, etc. Et de voir comment le pape et ses collaborateurs pouvaient aider en quelque sorte à accélérer la paix en Syrie.
Présent en Europe pour une tournée de sensibilisation aux problèmes de son pays, la Centrafrique, Mgr Zampalanga, l'archevêque de Bangui, était à Rome. Nous l'avons rencontré à la communauté Sant'Egidio qui avait œuvré à la signature d'un pacte républicain en septembre 2013 entre toutes les parties en présence. Mgr Zampalanga nous disait une fois encore cette semaine que cette guerre n'est pas interreligieuse.
Dès le début, nous avons pris position, ça veut dire musulmans, protestants, catholiques, en disant cette guerre n'est pas interreligieuse. Et nous continuons à garder notre unité, symbole de témoignage pour les gens, et nous demandons à nos fidèles qui sont instrumentalisés, pour ne pas dire manipulés, de faire attention. Derrière ce qu'on veut nous faire croire, ce sont des visées autres que des visées religieuses. Dieu n'a jamais divisé. Il est possible de vivre ensemble. Et je crois que plus que jamais, les fidèles aussi doivent se ressaisir pour chercher ce qui nous construit, ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous divise. Nous faisons partie d'un seul peuple. C'est le destin commun qui nous unit.
En milieu de semaine, le Saint-Siège était auditionné à Genève. Face au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, Mgr Tomasi, l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'ONU à Genève, et Mgr Chicluna, ancien procureur au Vatican, ont été entendus sur les cas d'abus sexuels commis par des membres du clergé sur des mineurs. Mgr Tomasi a rappelé que le Saint-Siège, qui fut un des premiers à adhérer depuis 1990 à la Convention relative aux droits de l'enfant, soutient le droit et le devoir de chaque pays à juger les crimes contre les mineurs. Il a également présenté l'action du Saint-Siège pour lutter contre la pédophilie dans l'Église.
Pour le Saint-Siège, l'occasion a été positive parce qu'on a eu la chance d'affirmer de nouveau la valeur et les idéaux de la Convention et de dire exactement la position du Saint-Siège qui quelquefois n'est pas bien perçue. Alors on a dit qu'on est d'abord bien disposé dans la position de demander transparence, les cours de la justice, de soutenir surtout les droits des enfants et des mineurs en général, et qui ont reçu des violations de part des prêtres ou d'autres personnels d'église. Surtout, je crois, la peur que le Saint-Siège aurait pu occulter ou défendre les institutions ecclésiales plutôt que défendre les enfants. Cette paire s'est dissipée complètement.
À quelques jours de la visite officielle du président français François Hollande au Vatican, hasard du calendrier, après la plénière de novembre, le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Georges Pontier, était au Vatican cette semaine et nous en parlait.
Et donc, ça a été l'occasion là pour moi et puis pour la présidence de rappeler les contacts derniers qu'on a eus avec le président, les débats de société, bien sûr, autour de la fin de vie, des questions qui nous marquent, des relations entre l'État et l'Église, la laïcité, la manière de vivre la laïcité en France, les débats entre la laïcité de l'État, la laïcisation de la société. Je pense aussi qu'il y a eu exprimé une satisfaction que le président Hollande vienne faire cette visite. de la part du Saint-Père, certes, mais de la nôtre aussi. C'est pour la communauté chrétienne une chose qui a de l'importance, quoi.
La semaine de prière pour l'unité des chrétiens vient de débuter. C'est l'un des événements œcuméniques les plus anciens et les plus généralement observés au monde. Depuis 100 ans, elle rassemble les chrétiens du 18 au 25 janvier. Et chaque année, un thème est choisi judicieusement, comme nous l'expliquait le cardinal Kurt Koch, le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.
Le thème que le groupe de Canada a choisi pour cette semaine de l'unité, est-ce que le Seigneur est divisé, est un thème qui est en grande provocation pour nous, parce que Saint Paul pose la question, est-ce que j'appartiens au Paul, est-ce que j'appartiens à Apollos, est-ce que j'appartiens au Pierre, ou Pierre, Paul et Apollo appartiennent au Christ. Et je dois mentionner que les trois personnes qui sont mentionnées sont des personnes très diverses, avec des charismes très divers, mais tous étaient amis du Christ. Et les trois personnes ne peuvent pas nous diviser, mais doivent nous unir dans l'amitié du Christ.